Vous écoutez RTL. 7h-9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
8h22, bonjour Alain Duhamel.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir, comme toujours, pour la sortie de votre tout dernier livre, qui a un caractère tout à fait particulier et très personnel. Journal d'un observateur paré aux éditions de l'Observatoire. Nous y revenons dans un instant. Mais je ne vais pas me priver de vous demander d'abord de commenter en quelques mots, puisque vous êtes avec nous, la séquence que nous venons de vivre autour de l'impôt à la source. Que faut-il retenir de tout cela? Un pouvoir qui hésite?
Un pouvoir qui hésite et ce qui est plus intriguant, un pouvoir qui met en scène son hésitation, délibérément. Et pourquoi est-ce qu'il met en scène son hésitation? Certainement pour prendre des précautions vis-à-vis de l'opinion en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette réforme, évidemment. Mais je crois aussi pour pouvoir démontrer à l'arrivée que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui ne recule pas devant les réformes, même si elles comportent un grand risque.
Vous voulez dire qu'il y avait un aspect de mise en scène
important. Alors, je pense.
Comme pour les 80 km/h, Emmanuel Macron laisse Édouard Philippe en première ligne. C'est une façon de se protéger en cas de bug, si je puis dire.
Non, en cas de bug, le responsable, ce sera Emmanuel Macron. Ça ne sera pas Darmanin, même s'il a juré que tout se passerait bien. Ça ne sera pas Édouard Philippe, même s'il a été chargé de la présentation. Ça sera forcément Emmanuel Macron, parce que les choix politiques qui sont faits, les réformes qui sont déterminées, leur ordre, leur importance, leur ambition, c'est lui. Donc, il prend un risque volontaire, mais vous savez, de deux choses l'une, hein, oui. Devant cette réforme qui est quand même un changement dans la vie quotidienne. Mmh. Sur le fond, ça ne change pas grand-chose, mais dans la vie quotidienne, oui, bien sûr, ça change. Pour beaucoup de Français, ou bien il reculait, et c'était le risque de la frilosité, ou bien il avançait, et c'était le risque de la témérité. Dans les deux cas, il y a un risque. Il a pris le risque le plus macronien, c'est-à-dire celui de la témérité.
Revenons donc maintenant au journal d'un observateur. Il s'agit, je le disais, de votre livre le plus personnel. Vous parlez de vous, de votre enfance, et même de la mort. Vous qui êtes pudique et sourcilleux de la protection de votre vie privée, qu'est-ce qui se passe, Alain Duhamel?
Oh, mon âge! Je veux dire, j'arrive à un moment de ma vie où il est normal de réfléchir un peu sur ce qu'on a fait, sur sa trajectoire, sur ses échecs, sur ses erreurs. Vous aurez remarqué que dans le livre, je relève des erreurs que j'ai commises.
J'y reviens.
Bon, je dirais que il me semblait, enfin que ce que j'ai vécu de l'intérieur, oui, que la manière de connaître des hommes politiques, des hommes d'État, etc., en dehors de ce que j'avais pu raconter comme histoire politique, il y avait aussi une dimension quasi privée dont je pensais qu'elle pouvait intéresser.
À la première page, vous évoquez la mort, la vieillesse, vous citez votre épouse, vos enfants, vos petits-enfants. J'étais stupéfait. Vous imaginez pas capable de faire ça.
Ça n'est quand même pas de l'exhibitionnisme.
Non. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais vous vous êtes livré. J'ai l'impression que vous expliquez Alain Duhamel, c'est-à-dire le Alain Duhamel public que nous avons vu et que nous écoutons aujourd'hui sur RTL et que nous voyons à la télévision depuis des années.
Il y a un petit peu de ça, de même que je raconte les différents épisodes de ma carrière avec les difficultés, puis avec quelques succès quand même. Et à la fin, dans la conclusion, je dresse, alors ça sera peut-être contesté, mais je dresse mon propre bilan. Mais
absolument, ça m'a fait sourire.
Et je reprends tout ce qu'on a pu me reprocher et ce qui me paraît justifié, ce qui me paraît anormal.
Le bilan ne me fait pas rougir, dites-vous, notamment dans ces pages-là. J'anticipe un petit peu. Je vous cite là encore, je ne sais pas s'il faut parler de souffrance, mais vous nous dites, et le chapitre s'intitule « La vie à la télévision n'est pas un long fleuve tranquille », en tout cas la télévision, pardonnez-moi, n'est pas un long fleuve tranquille. Vous expliquez notamment ce qui se passe le 10 mai 81, et ce sont des lignes assez, assez violentes. Est-ce que vous avez souffert quand vous voyez des gens vous huer, avec d'autres journalistes de la télévision de l'époque, qu'est-ce que vous avez ressenti ?
D'abord, une énorme surprise, parce que quand vous voyez Place de la Bastille, alors évidemment, c'était des militants, c'était pas la France entière, bien sûr, mais c'était des militants qui, en plus, arrivaient à ce qui était leur triomphe après 23 ans d'attente. Donc, il y avait une certaine excitation, évidemment. Mais quand on s'entend tout au long de la soirée huer, je le dis, d'abord, c'est un choc. Il faut pas raconter d'histoire, c'est un choc désagréable, bien entendu, que je trouve, en ce qui me concerne, assez largement injuste, même si c'est vrai que j'avais une préférence pour Valéry Giscard d'Estaing, ça n'avait pas empêché mon esprit critique de fonctionner, et même quelquefois un peu plus que ça ne plaisait à certains. Donc, je n'avais pas mauvaise conscience, mais surtout, et c'est ce l'évolution depuis qui m'a fait réfléchir à ça, s'il y avait eu à cette époque l'information continue et les réseaux sociaux, ce qui là a été une soirée désagréable serait devenu une espèce d'orage médiatique qui aurait duré des jours et des jours, ça serait passé en boucle, passé, repassé, repassé. Et je le dis parce que c'est vrai, on m'avait proposé à l'époque d'aller au Canada pour enseigner la science politique dans une université très honorable. Si ça avait été aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'y serais allé. Vous me direz, il y a des gens en m'écoutant qui doivent se dire c'est dommage.
Non mais être hué et conspué en public un soir d'élection majeure n'est pas une expérience agréable, et vous nous dites donc dans ce
fréquente.
Ni fréquente. Et vous nous dites dans ce chapitre, en fait, que vous avez quand même songé éventuellement à changer de vie.
Absolument. Absolument. On me l'a proposé aussi.
Pas de regret, Alain Duhamel ?
Bah écoutez, non, compte tenu de la suite, je ne vais pas être hypocrite. J'ai quand même fait un tas de choses extrêmement intéressantes et dans des conditions dont je ne pense pas qu'elles puissent se répéter non plus aujourd'hui. Parce que arriver à avoir un certain type de relation avec des hommes politiques sans être dépendant d'eux, parce que c'est ça évidemment le problème, et je ne l'étais pas dépendant, mais j'y ai veillé, j'explique comment je me suis organisé.
Oui, alors justement, c'est une des questions que je voulais vous poser, parce que vous avez des rapports de proximité d'une certaine façon extraordinaire avec l'ensemble de nos présidents de la République, ce sont des gens, pour dire les choses simplement, que vous voyez parfois pour des raisons aussi privées, avec lesquels vous dînez, et vous conservez, je dirais, un recul par rapport à tout ça absolument incroyable, et notamment, rien ne sortira de ces moments de confidence qu'ils ont eu avec vous.
Oui, rien ne sortira.
À quel moment enfin, je sais, c'est rien pas ne facile sorti, de gérer rien, ce fil.
Non, mais, non, bien sûr. Rien ne sortira, sinon que ce que j'apprends, ça me permet ensuite de comprendre, quelquefois de comprendre un poil avant d'autres. Évidemment, c'est un privilège.
Donc vous nous dites que c'était nécessaire que je les approche de
Non, ce n'était pas nécessaire, mais c'était un privilège utile. Bon, en plus, quand je les vois, c'est que ça m'intéresse, je veux dire. Ça prouve que peut-être ça les intéresse un peu aussi, mais en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et ce que je me suis efforcé de faire toujours, c'est de maintenir les règles que je me suis posées à moi-même. Je prends un exemple, avec François Mitterrand. Bon, je n'ai pas voté pour lui en 81, d'ailleurs, je le dis.
Non, mais vous avez une intimité intellectuelle.
Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que je n'ai pas voté pour lui et qu'il le sait, que j'avais critiqué son programme économique et social et qu'il le savait, que j'ai publié en 82 un livre qui s'appelait « La République de M. Mitterrand » dans lequel je disais « Cette politique économique, ça ne peut pas réussir ». Alors, on me l'a reproché pendant 3 mois, mais comme il se trouve qu'il y a eu le premier virage après, on me l'a pu reprocher. Bon, et en même temps, comme on dirait aujourd'hui, et en même temps, j'avais avec lui des relations d'amitié réelle, que d'ailleurs il m'a manifesté, y compris après la Bastille en 81, j'ai discuté quelquefois des journées entières, et au moins une centaine de fois. Donc, quand je dis qu'on se connaissait, c'est vraiment qu'on se connaissait. Ben, il m'a invité je ne sais pas combien de fois chez lui, il est venu chez moi, et en même temps, je ne soutenais pas sa politique économique et sociale.
Et ça ne crée pas des liens qui nuisent à l'indépendance d'un journaliste.
Ben, au contraire, si vous affichez vos désaccords, et que ça l'intéresse néanmoins de continuer à vous expliquer ce qu'il veut faire et à discuter avec vous, et même à évaluer, parce qu'il évaluait beaucoup ses ministres, sa politique, ses échecs, etc.
Donc vous parliez d'égal à égal, et vous avez toujours parlé d'égal à égal avec le président de la République, ce qui pose une autre question.
C'est... Alors, je ne veux pas être vaniteux, parce que ça serait ridicule de dire que je ressens...
Quand on commence comme ça, généralement... Enfin, bon.
Non, parce que je suis peut-être orgueilleux, mais je ne crois pas que je sois vaniteux.
D'accord.
Enfin, j'espère que ça se sent dans le
ce
livre.
Ce n'est pas le cas.
Bon. Disons que... S'il avait envie de discuter avec moi tellement longtemps sur des sujets quelquefois très sérieux et puis d'autres fois au contraire culturels, littéraires, de détente, de mode de vie, bon bah c'est qu'il y trouvait intérêt parce que autrement je dirais il n'avait pas de temps à perdre.
Hein. Je veux qu'on aborde deux questions sur lesquelles vous vous expliquez et qui font l'objet des critiques qu'on vous adresse parfois. La première c'est ce que vous êtes capable de vous employez le terme l'accumulation de vos collaborations. Est-ce qu'on a besoin de retrouver Alain Duhamel partout ?
Alors d'abord, c'est délibérément de mon fait moins vrai aujourd'hui que ça ne l'a été quand même.
Oui.
Hein ? Bon, ça, c'est vrai qu'il y a eu un moment où, voilà. Mais d'autre part, justement...
Moi, je n'ouvrais pas un journal, une radio sans trouver mon Duhamel.
Pas une radio aussi, c'était toujours une radio.
Mais vous avez compris, successive en l'occurrence.
Oui, mais choisie.
La nôtre étant la plus importante,
choisie.
Bien sûr.
Si je le faisais, c'était justement une réponse et une garantie à la question précédente que vous me posiez. C'est-à-dire que le fait d'avoir une multiplicité de collaborations, par exemple, j'ai fait beaucoup d'émissions à la télévision, ça n'a jamais été mon employeur unique. Ça me donnait une indépendance et un recul que je n'aurais peut-être pas eu autrement. C'est-à-dire, je
ne dépend... nécessaire pour votre liberté.
Ben, en tout cas, c'était très utile. Et à certains moments, très nécessaire, oui.
Vous vous imaginez de vivre sans la vie, sans commenter la vie politique française, sans la regarder ?
Eh bien, difficilement. Difficilement.
Vous voulez continuer ?
Non, je ne suis pas sûr que... Oui, enfin, je veux dire...
Quand on vous lit à la fin, je n'ai pas pu répondre à cette question, c'est pour ça que je vous la pose.
Oui, non, mais vous avez raison de la poser. D'ailleurs, je me la pose. Je trouve que pour la plupart des gens, pas la plupart, la quasi-totalité des gens, la retraite, c'est non seulement un repos, mais c'est la possibilité de vivre comme on veut, de faire les choses différemment, d'avoir du temps devant lui. Pour moi, c'est l'horreur. C'est l'horreur absolue. C'est l'idée de me dire, il se passe tellement de choses, j'ai tellement envie de réagir à ce qui se passe, d'essayer de comprendre, d'essayer d'expliquer, d'essayer de juger. Ouais, je suis pas sûr que ça vaille la peine.
Bon, moi je vous dis une chose, restez avec nous pour continuer à commenter l'actualité sur RTL. Et je dis à nos auditeurs que le journal d'un observateur qui vient de paraître est votre livre, à n'en pas douter le plus personnel, que vous m'avez toujours intéressé dans vos ouvrages, mais que cette fois-ci, en plus, je préviens nos auditeurs, ils seront parfois émus. Merci Alain Duhamel d'être venu nous voir aujourd'hui sur RTL. Journal d'un observateur paraît donc aux éditions de l'Observatoire. Très bonne journée à vous Alain Duhamel. Merci.